Alors, avec le temps qui nous reste ce matin, nous allons réfléchir sur la fidélité de Dieu, mais d'une manière peut-être un peu plus inhabituelle, parce que j'aimerais relier quelque chose que nous avons vu mercredi soir dans le cadre de la réunion de prière, avec quelque chose qu'on avait vu dimanche dernier. Donc mercredi, justement dans le contexte des 40 ans et de la fidélité de Dieu sur les 40 ans, on avait lu dans Deutéronome 7, verset 9, que Dieu est fidèle. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Et puis donc dimanche dernier, je vous parlais de ces lectures dans le livre des Nombres qui, entre autres, mentionnaient non seulement tous les sacrifices, mais mentionnaient souvent aussi de longues listes de noms qu'on aime beaucoup lire, n'est-ce pas? Ben, la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est ce qu'on va faire ce matin. Nous allons lire ensemble Nombres, chapitre 26, les 51 premiers versets. Donc, à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon la maison de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et les sacrificateurs Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Hénoc, de qui descend la famille des Hénokites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ceux Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille. De Nemuel, descend la famille des Nemuélites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jakin, la famille des Jakinites. De Zérak, la famille des Zérakites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Simeonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille. De Tsephon, descend la famille des Tsephonites. De Hagi, la famille des Hagites. De Shuni, la famille des Shunites. D'Ozni, la famille des Osnites. D'Eri, la famille des Érites. D'Arod, la famille des Arodites. D'Aréeli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Judas, Hur et Onan, mais Hur et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Judas, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Pérets, la famille des Pérétsites. De Zérak, la famille des Zérakites. Les fils de Pérets furent Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Judas, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issacar, selon leur famille. De Tola descend la famille des Tolaïtes. De Puva, la famille des Puvites. De Jashub, la famille des Jashubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issacar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille. De Séred descend la famille des Sardites. D'Élon, la famille des Élonites. De Jaléel, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille. Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé. De Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils des Galaades. Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Élekites. Azriel, la famille des Azriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Éfer, la famille des Éphirites. Tselophshad, fils de Éfer, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselophshad. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille. De Chutelak descend la famille des Chutelakites. De Becker, la famille des Bakrites. De Takan, la famille des Takanites. Voici les fils de Chutelak. D'Eran est descendue la famille des Eranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Fils de Benjamin selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. D'Ashbel, la famille des Ashbelites. D'Akiram, la famille des Akiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shukam descend la famille des Shukamites. Ce sont là les familles de Dan selon leur famille. Total pour les familles de Shukamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Beria, la famille des Bériites. Les fils de Beria descendent de Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azer était Sérac. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatséel descend la famille des Jatséélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitsrites. De Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. Et vous êtes déçus, n'est-ce pas, que Jacob n'ait pas eu encore d'autres enfants pour ajouter à la liste. Alors, quel lien peut-il avoir entre une lecture aussi fastidieuse et la fidélité de Dieu? Ben, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu le côté répétitif des sacrifices. Des sacrifices qui devaient se faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Ben ici, il y a quand même un point important dans ce côté répétitif des listes des familles. Ces listes sont importantes dans le contexte de la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse chapitre 15, où Dieu dit à Abraham, « Ne crains point. « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Mais Abraham répondit, « Seigneur éternel, mais que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Celui qui plus tard sera appelé par l'apôtre Paul le fils de la promesse. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le problème souvent lorsque nous lisons ces histoires bibliques comme l'histoire d'Abraham, c'est que nous connaissons trop bien la suite. Et donc on les lit avec déjà en pensée ce qui va se passer par la suite. Et on a du mal à se mettre à la place d'Abraham, à se rappeler que, comme dit la Bible, ces hommes étaient comme nous, avec les mêmes défis que nous, ne sachant rien de plus de leur avenir que nous ne savons du nôtre. Et donc, il faut se rappeler quand on lit cette promesse que Dieu a donné cette promesse d'une postérité qui ne sera plus comptée à un homme qui lui dit « Mais Seigneur, à quoi bon me donner des choses? J'ai personne, j'ai pas d'héritier à qui les léguer. J'ai pas de fille, j'ai pas d'enfant. Le seul qui va recevoir tout ce que tu me donnes, c'est un serviteur qui est né dans ma maison. C'est un de mes esclaves. À quoi bon me donner les choses? Je n'ai pas d'héritier. » Un homme qui, en plus, si on lit Genèse 17:17, logiquement, n'aurait pas d'enfant. Parce qu'au moment où Dieu lui donne cette promesse, Abraham, nous dit Genèse 17, tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, « Mais naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Alors, je ne sais pas si vous imaginez un couple de 100 ans et de 90 ans, on ne s'attend pas trop à ce qu'il nous donne une invitation à un baby shower parce que la dame est tombée enceinte. Et pourtant, c'est donc un homme de cet âge avec une femme de cet âge à qui Dieu dit « Oui, je sais que pour l'instant tu n'as pas d'enfant, mais en fait tu vas avoir des enfants. Et tu vas avoir tellement de descendants qu'on ne saura plus les compter. Ça va être comme les étoiles au ciel ou comme le sable sur le bord de la mer. » Et voilà que maintenant, en nombre 26, ce qui est à peu près une dizaine de générations plus tard, ce qui déjà en soi est assez miraculeux pour un homme qui a 100 ans, avec une femme de 90 ans, n'a pas d'enfant, voilà que 10 générations plus tard, ses descendants sont devenus tellement nombreux qu'ils ne sont plus comptés par individu, on les compte par famille. Et quand ils emploient le mot famille, ce n'est pas juste maman, papa et deux enfants, c'est un clan entier qui est compté. Ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, cela nous embête de devoir lire la liste de tous les noms de toutes ces familles qui sont représentées comme étant les descendants d'Abraham. Dieu avait fait ce qu'il avait dit. Donc, maintenant, Abraham a un héritier, parce que finalement, ce dénombrement, la suite du chapitre nous dit que le contexte, c'est que Dieu dit « Faites le décompte de tous les descendants d'Abraham, parce que c'est le moment qu'ils vont recevoir l'héritage que j'avais promis à Abraham lorsque j'avais donné la promesse. Lorsque je lui avais dit, en Genèse 15, verset 18, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Et dans Nombre 26, après toutes ces listes de noms, il dit « Vous allez voir quelles sont les tribus les plus grandes, quelles sont les tribus les plus petites, et vous allez leur distribuer la terre que j'ai promis à Abraham en fonction du nombre de personnes dans leur clan, dans leur famille. » Tellement il y avait de gens et tellement Abraham maintenant avait d'héritiers. Vous imaginez, Abraham a dit à Dieu, « Mais Seigneur, ce n'est pas la peine de me promettre un héritage parce que je n'ai personne à qui le léguer. » Et maintenant, Dieu dit à Moïse, « Faites le décompte parce que vous allez dispatcher le peuple avec un territoire qui correspond au nombre de personnes qui vont l'hériter. » Tellement Abraham avait d'héritiers. Et donc, quand on arrive au verset 51, à la fin de toutes ces listes de noms, on tombe sur ce chiffre impressionnant, n'est-ce pas ? Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. Donc, grosso modo, la population de Luxembourg, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Parce que quand on regarde le verset 2, qui sont ces 601 000 ? Ben, c'est que des hommes de plus de 20 ans qui sont prêts à aller à la guerre. Après, il faut ajouter à cela toutes les femmes et tous les jeunes de moins de 20 ans, donc tous ceux qui seraient intéressés par Grow-up. Il faut les ajouter, donc on arrive facilement au double, voire au triple du nombre de ceux qui ont été comptés. En plus, il y a la tribu de Lévi qui ne vont pas à la guerre. En plus, il y a tous les hommes de plus de 60 ans qui sont malheureusement en train de décéder les uns après les autres parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement à la sortie d'Égypte d'aller conquérir le territoire d'Israël. Et donc, Dieu dit, ils vont tomber dans le désert. Mais on doit ajouter tous ceux ensemble au-delà des 601 000. Et là, on commence à comprendre que rien que dans 10 générations, Dieu a béni Abraham au-delà, je pense, de tout ce qu'Abraham pouvait imaginer ou espérer. Un homme qui dit, mais Seigneur, ce n'est pas la peine de me donner un héritage. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans. Tu nous vois maintenant avoir des héritiers? Et voilà que dans 10 générations, ils sont tellement nombreux que franchement, chaque fois qu'on doit lire la liste des noms, on saute la page parce qu'on se dit « Non Seigneur, tu ne peux pas me demander de lire encore toute cette liste de noms comme ma lecture quotidienne. » Dieu avait accompli fidèlement sa parole à Abraham. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure dans le texte d'Apocalypse qu'Alain nous a lu, le dernier verset écrit « Car ces paroles sont certaines et véritables. » La parole que Dieu avait donnée à Abraham était certaine et véritable et s'est accomplie à tel point qu'on est embêté de devoir lire non pas les noms de chaque héritier, mais même ça nous embête de lire la liste du nom des clans de tous ces héritiers, tellement ils sont devenus nombreux. Et ceci devrait encourager notre foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous dit à nous. Parce que dans Romains chapitre 4, versets 16 et 17, l'apôtre Paul, après avoir parlé justement de l'expérience d'Abraham, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et plus loin dans le même chapitre, il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, en faisant référence à Genèse 15, lorsque Dieu a fait cette promesse. Abraham a cru, et nous avons lu que cela lui fut imputé à justice. Verset 23 de Romains 4, Paul dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ces choses ont été écrites, même ces listes de noms qui nous embêtent ont été écrites pour nous, pour augmenter notre foi dans ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que Dieu ne change pas. Le Dieu qui a accompli sa parole à Abraham est toujours notre Dieu. Nous, nous adorons le Dieu d'Abraham. Et la Bible nous dit en Jacques 1, 17 que ce Dieu est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hébreux 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, à l'époque d'Abraham, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne changera pas. Et donc, ces histoires sont là pour encourager notre foi, pour nous montrer que Dieu est fidèle, même à travers des générations, même justement, comme dit Deutéronome, jusqu'à la millième génération de ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, comme il l'a fait pour Abraham. Il est toujours fidèle à sa promesse, et il sera toujours fidèle d'ailleurs à sa promesse à Abraham, parce que la Bible nous dit que même au dernier jour, les descendants même physiques d'Abraham, ce peuple juif descendu du fils de la promesse, seront toujours là sur la terre pour accueillir le Seigneur Jésus enfin comme leur Messie le jour où il reviendra. Donc, peu importe toutes les tentatives de les éradiquer à travers l'histoire, ce peuple sera là, non pas à cause d'eux, mais à cause du Dieu qui a fait une promesse à Abraham et qui est fidèle jusqu'au bout lorsqu'il donne sa parole, sur qui on peut compter. Et donc, nous pouvons du coup faire confiance que ce même Dieu, le Dieu d'Abraham, sera fidèle à toutes les promesses qu'il a données, qui nous concernent aussi. C'est pour ça qu'on peut parler d'une assurance du salut, d'être sûr et certain que Dieu nous sauvera, que Dieu nous a sauvés et qu'il nous sauvera au dernier jour. Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25 parle de Jésus-Christ qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il a un sacerdoce éternel, donc jusque dans l'éternité, il nous donne cette garantie de notre salut. Pour ça que dans Romains 8, l'apôtre Paul peut dire: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et donc, quelles que soient les circonstances de la vie, nous dit l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, parce que Dieu est toujours fidèle aux promesses qu'il a données. Même lorsque cette promesse s'est donnée à un homme de 100 ans avec une femme de 90 ans qui n'a aucun enfant, en leur disant « vous allez avoir tellement d'héritiers que dans plusieurs milliers d'années, il y aura des croyants au Luxembourg qui vont dire « pourquoi il nous lit toute cette liste de noms, ça nous embête ?» Nous pouvons bâtir notre vie sur la certitude de la parole de Dieu, des promesses que Dieu nous donne, parce que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole, même si parfois les circonstances peuvent semer des doutes et nous faire poser des questions. Et dire, mais est-ce que vraiment, vu ce qui m'arrive, vu par où je passe, est-ce que vraiment Dieu va faire ce qu'il a dit ? Est-ce que vraiment je peux lui faire confiance ? Parce que pour l'instant, je ne le vois pas. Le soir où Dieu a fait alliance avec Abraham, il n'y a pas eu de sonnette à la porte en disant... « Bonsoir, monsieur, c'est Amazon, on vous livre un enfant. » Le soir où Dieu a fait alliance avec Abraham, il n'a rien vu. Sans doute le lendemain, il n'a rien vu. Sans doute pendant plusieurs mois, il n'a rien vu. Il a fallu, disons au plus court, minimum 9 mois avant de voir la première signe de la réalisation de cette promesse. Et même là, c'était un enfant. Il n'a pas vu toutes ces milliers de personnes qui allaient nous embêter par la lecture de tous leurs noms après. Et pourtant, Dieu était en train d'accomplir sa parole. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il s'est accroché à Dieu et Dieu a accompli ses promesses. Il a continué à obéir à Dieu, même au point, nous dit la Bible, d'être prêt à aller sacrifier le fils de la promesse, croyant que si Dieu avait fait la promesse, Dieu serait fidèle de réaliser sa promesse, même si entre deux il fallait faire quelque chose qui lui semblait totalement ridicule et aller à l'encontre du projet de Dieu pour lui, mais que Dieu était capable, Dieu était fidèle à ce qu'il avait dit, et il accomplirait sa parole. Romains 8, on vient de lire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On aime bien, n'est-ce pas, tordre un petit peu le sens des Écritures, bien sortir des versets de leur contexte pour pouvoir les placarder sur les murs en disant « Ah ben c'est formidable, ça veut dire qu'il ne peut m'arriver que de bonnes choses si je suis avec le Seigneur. » Mais quand on lit ces versets dans le contexte de Romains 8, ce n'est pas du tout ce que dit l'apôtre Paul. Il l'écrit dans le contexte de dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Quelles sont ces toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Selon l'apôtre Paul, c'est la tribulation, c'est l'angoisse, c'est la persécution, c'est la faim, c'est la nudité, c'est le péril, c'est l'épée. Plein de circonstances où on pourrait être tenté de douter de la fidélité de Dieu, de la bonté et de l'amour de Dieu, et de l'accomplissement des projets de Dieu dans notre vie, et de dire, je ne comprends pas, Dieu m'avait promis ceci, et voilà ce qui m'arrive. Un peu comme Israël disait, Dieu nous avait promis un pays où coule le lait et le miel. Il ne nous avait jamais parlé de tous ces géants qui habitent ce pays. Il ne nous avait jamais parlé de se traverser de désert où il n'y a même pas de quoi manger et de quoi boire. Et pourtant, Dieu a été fidèle à sa promesse. Et nombre 26, tous ces milliers et milliers de descendants d'Abraham, tous ces centaines de milliers d'héritiers, était sur le point de toucher à l'héritage que Dieu avait promis à Abraham, parce que Dieu accomplira toujours sa parole, même lorsque les circonstances semblent pour un temps dire le contraire. Nombre 23, verset 19, nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Ce sont c'est un principe qui est valable pour toutes les promesses que Dieu a pu nous donner. S'il s'agit des promesses pour tout chrétien, de notre salut, du don du Saint-Esprit, comme dans Actes 2, 38 et 39, si c'est de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, Dieu accomplira ses promesses, quelles que soient les circonstances actuelles qui peuvent sembler aller dans l'autre sens et brouiller les pistes. Il nous dit la seule condition pour que nous voyons ces choses réalisées, c'est de s'attacher à lui, de lui faire confiance. Comme Abraham, de croire en lui, de faire confiance en lui, ce qui sera imputé à justice. Si nous, nous nous attachons à lui, quelles que soient les circonstances, même, comme dit Paul, partant de tribulation, partant d'angoisse, partant de persécution, partant de faim, partant de nudité, partant de péril, partant d'épée, nous découvrirons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que le Dieu d'Abraham est un Dieu fidèle qui accomplit toujours sa parole, qui accomplit toujours ses promesses parce qu'il est fidèle à ce qu'il a dit. Donc si vous êtes déjà venu à Dieu en Jésus-Christ, vous vous êtes déjà accroché à Dieu par Jésus-Christ, soyez assurés par la fidélité de Dieu à sa promesse. Attachez-vous encore davantage à lui, quelles que soient les circonstances. Que les circonstances ne vous fassent pas douter de la fidélité de Dieu à sa parole. Il accomplira sa parole. Amen. Entre deux, il se peut que les circonstances semblent dire le contraire. Combien de pogroms, combien de massacres, combien d'holocaustes ont eu lieu dans l'histoire depuis que Dieu a fait sa promesse à Abraham, au point de pouvoir dire, ben, est-ce qu'il restera encore un membre de ce peuple juif sur la terre? Si, malgré tout, parce que Dieu est fidèle à sa promesse, et il a dit, il y aura ce peuple prêt à accueillir le Messie le jour où il reviendra. Pour nous aussi, si les circonstances semblent dire tout le contraire de ce que Dieu a pu nous dire, il accomplira ses projets parce qu'il est fidèle et nous pouvons nous accrocher à lui. Si jamais il vous arrive de temps à autre de douter de la fidélité de Dieu, de douter de sa parole, je vous encourage à faire l'effort de lire toutes ces listes de noms qui se trouvent dans l'Ancien Testament, qui sont la preuve que Dieu est fidèle, qui montrent que Dieu peut même dire à un homme sans enfant, hors l'âge d'avoir des enfants, tu vas avoir tellement de descendants qu'on ne voudrait plus les compter. On ne voudrait plus même lire leurs noms, tellement il y en aura. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous encourage vraiment à accepter l'invitation de faire comme Abraham et de faire confiance à ce Dieu fidèle, de venir à lui par Jésus, de vous accrocher à lui afin de découvrir que Dieu est fidèle et que les promesses qu'il désire proclamer sur votre vie s'accompliront parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle pour accomplir ses promesses.